Beaucoup de musique ou non, il y a toujours une chanson qui rappelle un moment, un souvenir dans une vie. Il y a cette réplique de Fanny Ardant dans La femme d'à côté qui dit « J'écoute des chansons parce qu'elles disent la vérité. Plus elles sont bêtes, plus elles sont vraies. D'ailleurs, elles ne sont pas bêtes, qu'est-ce qu'elles disent ? Ne me quitte pas, ton absence a brisé ma vie. Je suis une maison vide sans toi. » Pop & Co jusqu'à midi, c'est une heure où la musique raconte ce que nous sommes. Elle raconte quelqu'un, une génération entière, une époque ou un pays. Et ce matin, Pop & Co se passe à la Nouvelle-Orléans, dévastée par l'ouragan Katrina il y a 15 ans pile. New Orleans, ville musique du sud des États-Unis. New Orleans, ville musique pour le monde entier. Blues, jazz, funk et rap, c'est donc la bande-son de France Inter pendant une heure, de Louis Armstrong à Beyoncé. Dans la deuxième partie de cette émission, vers 11h40 ou 45, on change de focale, on zoome sur une seule et unique chanson pour entrer dans ses coulisses. Et aujourd'hui, on soulève le capot du morceau « People, I've Been Sad » avec son autrice, compositrice, interprète, productrice, c'est Christine and the Queens. Bonjour, bienvenue, c'est Pop & Co jusqu'à midi.
France Inter, Rebecca Manzoni. Pop & Co.
Laura, c'est le nom de la tempête qui touche le sud des États-Unis en ce moment, après avoir fait dégâts et victimes dans le golfe du Mexique. Il y a 15 ans pile, l'ouragan s'appelait Katrina. Il s'abat sur la Nouvelle-Orléans le 29 août 2005, et la veille, Robert Ricks est à son poste. Il est météorologue et correspondant régional pour les prévisions climatiques. Le 28 août 2005, Robert Ricks publie ce bulletin. Des dégâts considérables sont attendus. Un ouragan très puissant, avec une force sans précédent. Plus de la moitié de la zone va être inhabitable pendant des semaines, peut-être plus longtemps. Les toitures des maisons seront arrachées. Les immeubles de grande hauteur vont tanguer. Certains s'effondreront totalement. Toutes les fenêtres exploseront. La majorité des arbres seront déracinés ou brisés. Humains et animaux mourront s'ils seront frappés par la tempête. Ce bulletin météo publié par Robert Ricks est aujourd'hui exposé au Musée national d'histoire américaine. Il figure à côté d'un rosaire qui appartient à sa grand-mère et qu'il avait emporté en quittant la ville. De l'autre côté de l'Atlantique, sur les écrans de nos télés, les journaux confirment que la catastrophe annoncée s'est réalisée. Extrait du journal de France 3, diffusé le 1er septembre 2005.
La plus grande puissance du monde ne s'imaginait pas vivre de telles scènes de désolation et de chaos. 4 jours après le passage de Katrina, les dégâts humains et matériels sont impossibles à évaluer. On parle de milliers de morts. Les habitants de la Nouvelle-Orléans sont privés de nourriture, d'eau et d'électricité. Marc Dana.
Les gens meurent, il y a des gens qui sont en train de mourir là-bas. Les bébés meurent, il y a une vieille dame qui est morte dans sa chaise. Nous crevons de faim.
Mon bébé a 3 semaines, comment un bébé de 3 semaines peut survivre ici? Il n'y a pas de lait, pas d'eau.
La population se plaint de la lenteur des secours. Dans les zones non inondées, les réfugiés s'entassent. Les milliers d'autres sont toujours au Superdome, où un convoi de 300 bus doit les évacuer vers un autre stade, à Houston. En attendant, en ville, c'est le chaos. Il y a des pillards, des fusillades. À chaque fois, c'est la population qui n'a pas pu fuir l'ouragan qui est atteinte, la plus pauvre.
Dans le quotidien local de la Nouvelle-Orléans, une survivante de Katrina raconte qu'une voix l'a aidée à tenir le coup. Cette voix, c'est celle de Louis Armstrong quand il chante « Do you know what it means to miss New Orleans ?» Savez-vous ce que c'est être en manque de la Nouvelle-Orléans ? C'est être en manque du Mississippi qui coule paresseusement et qui grossit au printemps.
Do you know what it means to miss New Orleans and miss it each night and day? I know I'm not wrong, the feeling's getting stronger the longer I stay away. Miss the moss-covered vines, the tall sugar pines, where mockingbirds used to sing. And I'd like to see the lazy Mississippi a-hurrying into spring.
Louis Armstrong est né à la Nouvelle-Orléans en 1901, donc il est né avec le siècle et avec le jazz. Il disait « Ma joie, c'est de porter haut dans le monde les vibrations de la Nouvelle-Orléans. J'en tire un sentiment d'euphorie mêlé de terreur. L'herbe que j'ai fumée depuis 25 ans m'a permis de planer un peu au-dessus de ça. » Cette citation vraie, ou plutôt cette vraie citation, je l'ai lue dans un roman qui a paru au printemps dernier et que Claire Julliard a écrit. Le titre du livre, c'est « Little Louis », l'histoire de l'enfance de Louis Armstrong à New Orleans.
Oui, c'est vrai qu'il représente la Nouvelle-Orléans.
Je sais, vous n'avez pas bien entendu cette phrase parce que le volume de mon micro n'était pas assez fort quand j'ai rencontré Claire Julliard. Alors je la répète, oui, c'est vrai, Louis Armstrong représente la Nouvelle-Orléans. Bon, heureusement, après j'ai monté le volume du micro. Et Claire Julliard m'a raconté Louis. On était attablés dans un café de Paris, à défaut des rives du Mississippi.
Il a vraiment vécu, au sens vivre pleinement, toute son enfance, son adolescence à la Nouvelle-Orléans, dans le quartier de Storyville, qui était le quartier chaud, ou appelé aussi le district, quartier des lanternes rouges, quoi, des prostituées. Mais de tout ça, il a retenu que la ville, l'intensité, l'énergie, et puis les musiciens. Il disait, moi, jazzman, non, je suis un musicien des rues. Et c'est vrai qu'il a commencé à chanter avec parce qu'il ne pouvait pas encore jouer de la trompette, il n'avait pas les moyens de s'acheter une trompette. Donc il jouait avec quatre copains de la nuit, pour se faire de l'argent aussi, et ils arpentaient les rues très dangereuses de la Nouvelle-Orléans, en chantant les airs à la mode, et il rentrait et donnait l'argent à sa mère. Mais de toute façon, il a passé sa vie dans les rues de la Nouvelle-Orléans, à écouter avec adoration des grands jazzmen, bon, dont le nom maintenant est des plus grands choses, mais sauf aux spécialistes, mais Joe Oliver, qui était son idole, qui était un très grand instrumentiste. Il y avait Sidney Bechet, mais il l'a connu que par la suite, parce qu'il habitait dans un plus beau quartier. Et tous ces musiciens jouaient aussi dans ce qu'on appelait les honky-tonk.
C'est quoi les honky-tonk?
Alors, c'était des bastrings, quoi. C'était des bouges, mais qui c'était formidable parce qu'il y avait toujours une petite estrade pour les musiciens, quoi, avec un piano, des endroits où on buvait, où il y avait des prostituées. Beaucoup de ces musiciens étaient également souteneurs, hein, faut dire ce qui est. Donc tout ça a fait fleurir, comme ça un peu là, entre la fleur et l'ordure, a fait fleurir le plus grand mouvement musical du XXe siècle, avant le rock, hein, le jazz, qui s'appelait encore au début, qu'on écrivait encore jazz avec deux S à la fin, parce que peut-être ça vient du français, de jaser. Et il s'est jamais vraiment détaché de la Nouvelle-Orléans, c'était pas possible, il a été obligé après de parcourir le monde et de jouer partout. Il a refusé après de jouer à la Nouvelle-Orléans à cause de la ségrégation. Mais il avait un attachement viscéral à cette ville qui était extraordinaire, où le jazz est né. Pour dire à quel point il aimait la Nouvelle-Orléans, dans Basin Street, qui est le nom d'une rue qui bordait son fameux quartier. Je traduis comme ça, « Voulez-vous venir avec moi descendre le Mississippi? Nous allons prendre un bateau pour le pays des rêves. » Pour lui, c'est le pays des rêves. Un vapeur qui descend le fleuve jusqu'à la Nouvelle-Orléans, le paradis sur terre, s'appelle Basin Street. Paradis sur terre, non, c'est en même temps l'enfer. Enfin, il a vécu l'abandon, il a vécu le bagne, il a vécu des tas de choses terribles. Hein. C'est très curieux. Dans une autre ville, il aurait pas rencontré tous ces musiciens. C'était grâce à la Nouvelle-Orléans. C'est là qu'il a connu les dieux de la musique, ou que le dieu de la musique s'est penché sur lui. On ne sait pas.
Yes, Basin Street is a street. Where the folks, they all meet in New Orleans, the land of dreams, by the neighbor over the land.
Dans son roman Little Louis, Claire Julliard reprend les propos d'un entretien qu'Armstrong a donné et qui a été publié en 1952 sous le titre « Ma vie à la Nouvelle-Orléans ». Il dit « J'ai découvert que nous, les Noirs, devions toujours nous tenir derrière les Blancs, baisser les yeux devant eux, nous rendre invisibles. Nos existences ne valaient rien à leurs yeux. Toute ma vie a été un défi à cette injonction. »
Finalement, les Noirs américains, qui étaient quand même très majoritaires dans ce quartier, comment dire, ils se sont créés leur propre territoire. Ils étaient interdits de tellement de choses qu'ils se sont appropriés la musique, ils ont inventé le jazz, comme après ils inventeront le rock. Tout ça a été récupéré par des blancs après, mais les noirs américains ont tout inventé en musique au XXe siècle, puis le rap, etc. Mais tout était déjà en germe, en fait, dans le jazz de la Nouvelle-Orléans.
Les mots d'Armstrong encore sous la plume de Claire Julliard dans son roman Little Louis. La musique nous sauvait de tout. Le jazz est né chez nous. Je l'affirme face au chipoteur, le jazz est bien né chez nous et je suis né avec lui. Peut-être que des pionniers ont vu le jour ailleurs à la même époque. Cependant, les meilleurs musiciens du monde ont une dette envers ma ville. Et là, je pense à tous ceux qui sont allés à la Nouvelle-Orléans comme des pèlerins pour retrouver le sens originel de la musique. Paul McCartney, Bob Dylan, les Stones ou Paul Simon. Il y a 2 ans, David Walters est parti là-bas aussi. David Walters est chanteur, multi-instrumentiste, et il a grandi entre Paris et les Antilles. Il a pris l'avion pour la Louisiane avec un violoncelliste français, un percussionniste béninois, et une fois sur place, David Walters a mêlé sa voix à celle de 2 musiciens de New Orleans. Nola is Calling, c'est le nom de leur groupe. Antilles, France, Afrique, Amérique, 4 mots qui disent la Nouvelle-Orléans. À suivre, le titre Downtown du groupe Nola is Calling. Send your spy, send your flag, I won't get mad. I do the jungle boogie on the overpass. Talk to my mother and told my wife, I'm coming that morning because my life. Downtown, downtown, downtown. That downtown religion. Downtown religion. Downtown religion. Downtown religion. Downtown religion. Downtown religion. Early in the morning to the ring, ring, ring. Peeped out my window, saw the same old thing. Crying like John, that's how I feel. Known a Mardi Gras morning, I play for real. We don't ball, no trouble, we'll kill him dead. Got a spy that morning, snatch his crown off his head. Lord have mercy, that's what I said. Be the pretty big chief on the holiday. Send your spies, send your flag, I won't get mad. I do the jungle boogie on the overpass. Talk to my mother and told my wife, I'm coming that morning because my life's in the downtown, downtown, downtown. That downtown religion. C'est Pop & Co sur France Inter, une heure où la musique raconte l'époque d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Jusqu'à midi, je vous parle de la Nouvelle-Orléans, ville musique du blues au rap, 15 ans après Katrina.
France Inter.
Bonjour, excusez-moi.
Rebecca Manzoni.
Vous ne seriez pas Alexis par hasard ?
Pop & Co.
D'accord, merci, pardon.
Je suis carrefour de l'Odéon à Paris et j'attends donc un Alexis au milieu des pigeons. Je ne connais pas encore son visage, mais je sais qu'il est photographe, qu'il s'est installé plusieurs mois à la Nouvelle-Orléans en 2015, 10 ans après Katrina, et qu'il en a fait un livre. Son nom complet, c'est Alexis Pazoumian.
Enchanté.
Enchanté.
Oui.
Moi aussi.
On était donc comme 2 timides. Moi, avec mon micro, et Alexis Pazoumian, avec un ordi portable sous le bras. Dedans, il avait écrit toutes les réponses aux questions que j'allais lui poser. Ben oui, ça fout les jetons, un micro.
Dans les premières questions, c'est pour ça que je voulais voir avec vous. Est-ce qu'il faut que j'introduise le fait que le jazz est né à la Nouvelle-Orléans et pourquoi ?
Non, ça on l'a fait au début de l'émission.
De toute manière, j'imagine que vous faites un montage après.
Ouais, ouais.
clouds, there may just be, and my baby, we're all going crazy, but jumping and having fun.
Le titre du livre d'Alexis Pazoumian, c'est Faubourg Trémé. Et Trémé, c'est le quartier de la Nouvelle-Orléans où il a vécu. C'est aussi le nom d'une excellente série américaine dont vous entendez le générique sous ma voix. Cette série raconte New Orleans, sa musique, ceux qui la font et l'Amérique 3 mois après le passage de l'ouragan Katrina.
Elle était très importante cette série parce que je l'ai découverte en amont de mon premier voyage à la Nouvelle-Orléans. Et une fois sur place, donc chaque soir je regardais un épisode de la série. Et ce qui était formidable, c'est que je reconnaissais dans chaque épisode des musiciens ou des figurants, des habitants que je venais de croiser dans la journée ou dans des bars ou dans des clubs de jazz. Parfois j'allais dans des bars où il y avait des musiciens très très connus qui, comme Kermit Ruffin.
Kermit Ruffin, c'est l'un des personnages de Trémé justement.
C'est aussi un des personnages de Trémé. Il fait des apparitions.
De Trémé la série,
il fait des apparitions. Qui est un musicien qui par exemple parcourt le monde entier, fait des tournées au Japon, en France, en Allemagne. Et il a son propre bar. Et lui, entre ses tournées, il passe le plus clair de son temps dans son bar, à manger des crevettes grillées, partager un barbecue avec ses amis et jouer de la musique. C'est vraiment des petits concerts privés, pas payants. On peut voir ces musiciens très connus en dehors des quartiers touristiques.
All aboard!
Je suis arrivé, il y a ce qui a été assez marquant, c'est que les stigmates de l'ouragan Katrina sont encore très visibles et je me suis rendu compte que la musique n'avait jamais quitté les lieux. J'ai ressenti cette musique comme un remède qui a servi comme clé à la reconstruction de cette ville. Alors, je dirais peut-être pas la clé de la reconstruction mais la clé de la renaissance parce que c'est une ville qui était morte après Katrina et de nombreux habitants sont revenus, dont les musiciens en premier, pour faire renaître cette ville.
Les fanfares de jazz font partie de la carte postale musicale de la Nouvelle-Orléans. C'est même devenu un truc à touristes. En tout cas, les fanfares ont fait, font et feront encore partie de l'âme de la ville. Là, je vous fais écouter la Free Agents Brass Band, une fanfare de 10 musiciens formés en septembre 2005, donc juste après Katrina. 10 garçons déterminés à ramener la musique à New Orleans. We made it through the water, c'est le titre de ce morceau qui dit « Je suis tellement heureux qu'on soit de retour à la maison. Quand j'ai perdu ma ville, j'ai perdu ma tête. »
That bridge, so let's get it how we live. That's why we did what we did. When I lost my city, almost lost my mind. In and out of hotels, feel like I'm doing time. Please, Mr. Officer, don't shoot. Cause I ain't eating this. I was stuck up on that roof. Ain't trying to make an excuse, but they running from the truth. We know they blew them levers, man, but we ain't got no proof. Whatever they do, I can't turn my back. I was born righteous, so righteous where I'm at. Send them troops home, let daddy to San Iraq. And tell FEMA we gon' need more than 10 stacks. Wherever you at, saving all to the Cali, yo. One time, do it big for De Niro. H Town, all the way to the A. We appreciate the love, but my people can't stay. We the men.
Pour gagner sa vie, une fois installé à la Nouvelle-Orléans, Alexis Pazoumian a fait des photos pour des pochettes de disques. C'est comme ça qu'il est devenu ami avec Kirk Joseph, un tromboniste. Kirk a perdu sa mère et Alexis a assisté aux funérailles. En allant au cimetière, des musiciens proches de la famille ont accompagné le cortège.
À l'aller, donc pour se rendre jusqu'au cimetière, les pas généralement sont très lents, le rythme de la musique est lent. Et tout le long sur le trajet, il y a d'autres musiciens qui se joignent au cortège, qui connaissent ou pas le défunt. Donc en fait, ce qui fait que derrière la première ligne du cortège principal avec la famille, les amis, les musiciens, il y a un défilé qui est ample, qui est de plus en plus grand, et c'est ce qu'on appelle la deuxième ligne du cortège, donc la seconde line. Au départ, on devait être une trentaine, et puis on a fini à 100. dans la rue, à jouer de la musique avec des musiciens qui venaient improviser et participer à la fanfare. Il y avait des femmes qui étaient comme en transe, totalement possédées par la musique, qui dansaient, qui criaient, qui pleuraient, comme je disais. J'étais abasourdi. D'ailleurs, j'ai fait très peu de photos de cette séquence parce que je préférais observer. Dans ces traditions, je ne sais pas si elles ont changé, mais ce qui est beau, c'est qu'elles sont restées intactes. Elles auraient pu disparaître parce que d'autres préoccupations, il faut rebâtir sa maison, il faut gagner de l'argent. Donc pourquoi venir jouer pour un enterrement alors qu'on souffre, qu'on a d'autres problèmes? Mais ce qui est beau, c'est que voilà, toutes ces traditions sont restées intactes et n'ont pas changé. Et je pense resteront à la Nouvelle-Orléans pendant de nombreuses années encore. Dr. Scott,
l'ouragan Katrina a renforcé l'intérêt pour un répertoire traditionnel qui a failli être balayé, disparaître. Résultat, dans la bande-son de la ville, le passé et le présent se sont de plus en plus mélangés. Le symbole de ça, c'est le bounce, le nom du rap de la Nouvelle-Orléans né dans les années 90. Après Katrina, le bounce a fusionné encore plus les styles, les scènes, les publics. Fanfare de jazz, funk, soul, hip-hop. Le bounce, c'est le résultat musical hybride de tout ce qui fait cette ville. À suivre, le titre Bouncing Back de Mystical, un rappeur natif du coin.
Really be throwing my words, then I'm jamming on the one. There ain't nobody but never bamming on the drum. Swift flip kicks landing from the tongue. More dramatic than bamming and rapping. Ba-na-na-na-na-na. Oh, no one to be handing it, been to be sharper than the thumb tag. The one to be dropping it up, be showing them how to come back. And you gon' respect me and appreciate where I run at. You ain't gon' piss me off with you. Sorry that you done that. I guess meaner, badder, strong and ferocious. You don't need much more secret. Coming back more fearless, more determined. When I'm being opposed, I stick your chest, I keep your chin up. It's a time to got to get knocked down, to get up. You keep bumping me against the wall. Yeah, I know I let the side fall. But until you see me, trust me.
You ain't seen bouncing back.
You keep bumping me against the wall. Yeah, I know I let the side fall. But until you see me, trust me.
You ain't seen bouncing back.
No matter what happened, that's over me once, shame on you. You come up in here and do it again, then it's shame on me. Sometimes we be getting told what we didn't won't learn. Sometimes we be getting told what we ain't won't see. I accept my wins just like the way that I feel. I grow, I think I'm inspired to put them under my belt. I learn from you just like you learn from me. I bleed, I pray for peace and perfect harmony. Somebody said, fool, you better keep on rapping. Stop that trip, ain't gonna happen. I told them, look, you better mind your business. Change your way of thinking, keep on living. They thought I was the trouble of you. Been out since, cause you stuck inside scared, watching CNN. Just take the precautions or your life will be better. Tell my friends to call me, I ain't accepting no letters. But keep bumping me against the wall. Yeah, I know I let the side to fall. Oof. But if you see me, trust me.
You ain't seen bouncing back.
Pop & Co. Rebecca Manzoni.
Good evening. I'm speaking to you from the city of New Orleans.
Voici George W. Bush, président des États-Unis, qui s'adresse aux Américains depuis la Nouvelle-Orléans le 15 septembre 2005.
We will do what it takes. There is no way to imagine America without New Orleans. And this great city will rise again.
Nous ferons ce qu'il faut, quoi qu'il en coûte, dit George W. Bush. L'Amérique sans la Nouvelle-Orléans est inimaginable et cette belle ville se relèvera. Mais George Bush arrive à la Nouvelle-Orléans beaucoup trop tard. Jusque-là, il s'était contenté de survoler la ville en hélicoptère. Quand il se rend enfin sur place, nous sommes plus de 15 jours après la catastrophe et le monde entier a en tête les images de cadavres flottants. Les Afro-Américains sur le toit de leur maison ou de leur voiture, les bras levés vers le ciel à côté du mot « help », au secours, qu'ils ont écrit à la craie et en majuscule. Si George Bush prend enfin la parole, un rappeur afro-américain n'y est pas pour rien. Il s'appelle Kanye West. Le 2 septembre 2015, Kanye West participe à une soirée télé d'appel aux dons en faveur des victimes de Katrina. Le show est réglé au millimètre, Kanye West doit lire un prompteur, mais non. Il décide d'improviser et de dire ce qu'il pense, lui. Je déteste la façon dont nous sommes présentés par les médias. Quand on voit une famille noire, on nous dit qu'elle s'adonne au pillage. Mais quand ce sont des blancs, ils sont simplement en train de chercher de la nourriture. 5 jours se sont écoulés sans que rien ne se passe, car la plupart des victimes sont noires.
On voit qu'il cherche ses mots, on voit qu'il est dans une énergie qui n'est pas du tout une énergie rassurante par rapport à celle des autres célébrités qui sont vraiment dans une expression affligée par la situation, qui parlent doucement, en donnant des chiffres, vraiment pour demander aux gens d'envoyer de l'argent. Lui, il est dans un truc beaucoup plus énergique, enfin, on sent vraiment qu'il y a l'émotion qui prend le dessus.
Voici Adrien Durand, auteur d'une biographie de Kanye West qui s'intitule « Kanye West ou la créativité dévorante ». Mais c'est qui Kanye West en 2005? Un rappeur, afro-américain, déjà superstar. Noir, star, rappeur, 3 raisons pour lesquelles il est invité à la télé ce soir-là.
C'est la caution rappeur noir et c'est aussi, aux yeux des médias, j'imagine à l'époque, un rappeur qui est plus consensuel parce que c'est pas un rappeur gangsta, il évoque dans ses albums des thèmes qui sont complètement différentes du lexique classique du hip-hop de l'époque. Donc je pense que aussi il est invité en tant que membre de la classe moyenne noire américaine qui est désormais une star du rap. Pas très loin de devenir une star de la pop, puisque la veille de cette prise de parole, il fait la couverture de Time Magazine, qui sous-titre Kanye West, l'homme le plus intelligent de la pop musique. Donc je pense qu'il est vraiment invité comme rappeur consensuel, ce qui peut faire rire un peu maintenant, avec le recul.
Kanye West est donc là pour rassurer, sauf qu'il va pirater le show télé, censé émouvoir, divertir et pousser les Américains à ouvrir leur porte-monnaie. Kanye West conclut son discours avec cette phrase comme une punchline.
George Bush doesn't care about black people.
George Bush n'en a rien à faire des Afro-Américains.
Please call.
En régie, on s'affole, il y a un blanc à l'antenne et on tente de passer à autre chose très vite. Mais la phrase reste au point d'entrée dans l'histoire.
Le fait de pouvoir mettre un petit peu cette vérité à la télévision comme ça dans une situation complètement de piratage du message officiel. J'ai pas connaissance à l'époque d'une prise de parole telle que celle-ci. Je trouve que c'est différent quand un artiste parle à son public qui est déjà un peu acquis à sa cause. C'est vraiment un des moments clés de sa carrière. Et je pense un des moments clés de la pop culture de ces 20 ou 30 dernières années. C'est vraiment un événement qui va beaucoup marquer les esprits. Qui va aussi montrer que on peut, en tant qu'artiste, aller contre cette censure dont sont victimes les artistes noirs, à qui on les invite à la télévision pour se faire caution d'un divertissement. Et il faut surtout pas faire de vagues. Ils peuvent faire des vagues sur leurs disques que les gens achètent pour se divertir, mais il n'est pas question d'avoir un avis ou un discours différent.
George Bush doesn't care about black people. George Bush doesn't care about black people. George Bush doesn't care about black people.
C'est aussi une époque où il n'y a pas encore les réseaux sociaux, donc il va aussi induire ce côté très viral d'un discours, une phrase qui est reprise et reprise et reprise, un peu avant l'ère Twitter et compagnie, quoi.
Même sans les réseaux sociaux, la phrase de Kanye West devient virale. Non seulement elle est reprise partout dans les médias, mais aussi par d'autres rappeurs. Si dans les infos, une actualité chasse l'autre, les artistes de hip-hop, majoritairement afro-américains, vont continuer. Continuer à braquer les projecteurs sur New Orleans endeuillé. Continuer de placer George W. Bush sur le banc des accusés. Et là, je vous présente Lil Wayne, rappeur afro-américain né à la Nouvelle-Orléans. Jusque-là, Lil Wayne publiait des morceaux qui n'étaient pas engagés politiquement. Un an après Katrina, il sort Georgia Bush pour dénoncer le racisme du président américain. Lil Wayne utilise la chanson Georgia, standard de Ray Charles.
This song right here is dedicated to the President of the United States of America. Yeah, y'all might know him as George Bush, but where I'm from, Lost City of New Orleans, we call him this.
Georgia.
That's right.
Georgia.
Bush.
Georgia.
You know who you are.
Georgia.
Let's go.
Bush. Bush. Bush.
Après Katrina, l'Amérique, la musique et la ville de la Nouvelle-Orléans ne seront plus jamais les mêmes. Les Afro-Américains ont été forcés de quitter la ville, les loyers ont explosé, la gentrification était en cours depuis longtemps, mais l'ouragan l'a accélérée. En août 2015, le journaliste Frédéric Carbone est sur place pour France Info. Il fait entendre le témoignage d'Amir Barakat, un travailleur social de New Orleans.
Ils ont fait partir beaucoup de pauvres. Des gens aisés sont arrivés, ils ont acheté, ils vivent très bien. Tout ça, pourquoi pas? Mais qu'est-ce que vous faites de tous ceux qui payaient 1000 dollars de taxes avant et qui doivent aujourd'hui verser 8000 dollars? Ces gens, en fait, ils sont poussés dehors. De manière générale, la Nouvelle-Orléans n'est plus la Nouvelle-Orléans. Il y a une rupture. Certains disent que le changement a du bon, mais ce n'est pas le cas quand tant de personnes souffrent à cause de cela.
Il y a d'ailleurs ceux qui souffrent dans ces quartiers, et puis ceux qui souffrent de ne pas pouvoir revenir chez eux. Il s'agit essentiellement d'une population noire. La Nouvelle-Orléans compte 100 000 Africains-Américains de moins qu'en 2005. Ça aussi, c'est un effet de Katrina, une modification de la couleur de la ville.
Katrina a largement contribué à politiser la nouvelle génération d'artistes afro-américains qui incarnent l'entertainment dans le monde entier. Des superstars du hip-hop comme Jay-Z ou Kendrick Lamar, une superstar du R&B comme Beyoncé, remettent la question raciale au premier plan depuis le début des années 2010. Ils s'associent au mouvement Black Lives Matter, la vie des Noirs compte. En 2016, Beyoncé chante Formation. Une partie du clip est tournée à la Nouvelle-Orléans. On la voit sur une voiture en train de couler. À la fin de la vidéo, on lit les mots « Stop shooting us », arrêtez de nous tirer dessus. Et Beyoncé chante « Qu'est-il arrivé à la Nouvelle-Orléans ? Merde ! » Je suis de retour à la demande générale.
My daddy Alabama, mama Louisiana. You mix that Negro with that Creole, make a Texas Bama. I like my baby hair with baby hair and afro. I like my Negro nose with Jackson 5.
Sauce in my bag, swag.
I see it, I want it, want it. I stunt yellow, want it, want it. I dream it, I work hard, I grind till I own it, own it. I twirl on the middle, albino alligators, albino with the Cielo, sipping Cuervo and Ochoa. I go hard,
I go hard,
I go hard,
I go hard.
Yeah, what's mine?
Hey, what's mine?
I'm a star,
I'm a star.
Cause I slay, I slay.
Au départ, Katrina n'était que le nom d'un ouragan. C'est devenu celui d'un phénomène à la fois culturel, politique et racial. Depuis Katrina, des Afro-Américains continuent de mourir sous le coup des violences policières. On a vu la mort de George Floyd sur nos écrans. On a appris l'assassinat de Jacob Blake, tué de 7 balles dans le dos par un policier blanc à Kenosha, il y a une semaine. Je voulais terminer ce récit de Pop & Co par la voix de l'écrivain américain James Baldwin, figure de la lutte pour les droits civiques. Dans un film magnifique qui s'intitule « I am not your Negro », le réalisateur Raoul Peck fait revivre les mots et la scansion de Baldwin. L'extrait que vous allez écouter date du milieu des années 60.
I'm terrified.
Je suis terrifié par cette apathie morale, cette mort émotionnelle qui se produit dans mon pays.
These people have deluded themselves for so long.
Ces gens se leurrent depuis si longtemps qu'ils ne me considèrent pas comme humain. Je parle de leur conduite, non de leur discours.
And this means that they have become in themselves.
Et cela signifie qu'ils sont devenus, en substance,
moral monsters.
Des monstres moraux. Au fil d'un texte intitulé « Les usages du blues » que vous pouvez lire dans l'un des numéros de la revue America, James Baldwin cite un morceau de Bessie Smith, immense chanteuse de blues. Ce morceau, c'est « Backwater Blues ». Bessie Smith raconte une inondation qu'elle a vécue. Elle dit « Il a plu 5 jours et le ciel est devenu aussi noir que la nuit. L'angoisse de ces eaux troubles m'a fait faire ma valise et je m'en suis allée, vu que ma maison s'est effondrée et que je ne peux plus y vivre. L'histoire, comme un éternel recommencement. »
the skies turn dark at night. When it rained 5 days and the skies turn dark at night. Then trouble taking place in the lowlands at night.
Vous trouverez toutes les références des livres, films et disques dont je me suis servi pour vous raconter la musique à la Nouvelle-Orléans sur le site de Pop & Co, P-O-P-N-C-O. Vous y trouverez notamment Little Louis, roman de Claire Julliard, paru aux éditions Le Mot et le Reste, Faubourg Trémé, livre du photographe Alexis Pazoumian, publié chez André Frères Éditions, Kanye West ou La créativité dévorante d'Adrien Durand chez Playlist Society, et je tiens à vous signaler un excellent roman signé Nick Cohn, le titre Trixta, un écrivain blanc chez les rappeurs de la Nouvelle-Orléans, c'est aux éditions de l'Olivier. De l'année 2005, on bascule vers 2020 grâce à l'un des plus beaux albums français parus cet été. C'est « Environ », écrit au pluriel. « Environ », c'est un nom commun, autant qu'un verbe. « J'en vire »,« tu en vire », »,« nous environ ». Et ça veut dire « tourner sur soi-même », jusqu'à la transe, jusqu'à l'ivresse. Rodolphe Burger, dans cet album, interprète des leaders de Schubert, des standards de reggae, de la soul, et il livre aussi des titres inédits, comme celui-ci. Le chant des pistes, qui tourne depuis quelques temps sur l'antenne de France Inter. Rodolphe Burger jouera à la Laiterie de Strasbourg le 5 septembre. Il sera aussi à Nantes le 28 janvier.
Voici le chant des étoiles. Car nous sommes nous-mêmes les étoiles. Des oiseaux faits de feu, et nous traçons une route pour notre âme. Car trois d'entre nous sont des chasseurs. Ces trois-là chassent l'ours. Car nous dévisageons les montagnes avec dédain. For we face the hills.
Appel en cours, merci de patienter.
Pop & Co jusqu'à midi, c'est aussi explorer une chanson avec un ou une artiste. Ce matin, ça se passe au studio Ferber, à l'est de Paris, avec Christine and the Queens. Au printemps, elle a publié un EP, un mini-album, au titre italien. C'est la Vita Nuova.
Cet EP a été écrit très rapidement, dans un état de grande vulnérabilité et tristesse.
On peut savoir ce qui vous est arrivé ? D'où elle vient cette tristesse ?
J'ai perdu ma mère, assez brutalement d'ailleurs, en pleine tournée. Enfin, quand j'ai perdu ma mère, j'étais quand même au milieu de la tournée. Ça a été vraiment très dur parce que j'ai eu 2 semaines où j'ai rien pu faire. Enfin, je me suis raconté que j'allais pouvoir retourner sur scène 3 jours après, puis c'était ridicule. Et puis j'ai connu une histoire d'amour très compliquée. Et puis le deuxième album a été assez éprouvant.
Pour ce deuxième album, Christine and the Queens avait rayé tout son nom, ou presque. Elle a juste gardé Chris. Elle a coupé ses cheveux, musclé ses biceps et sa voix. Elle s'amusait à jouer de la canaillerie, de l'insolence. Et Chris, le personnage comme l'album, ont été mal accueillis en France. Sur les réseaux sociaux surtout. Il y a eu des critiques qui ont viré à l'insulte, à la misogynie, à l'homophobie.
Honnêtement, j'ai été très surprise. Je travaillais l'insolence autour de ce deuxième album, donc j'anticipais quand même de léger... Bon, mais je pensais que ça allait être une conversation joyeuse, moi. Sur la réinvention, sur l'audace, sur... ah tiens, elle nous emmène là, ah tiens, elle va là. Et puis au final, je trouvais qu'il y avait quand même beaucoup de gravité dans les discussions, comme si j'étais pris en faute les doigts dans un pot de confiture, quoi.
C'était plus que de la gravité, vous en avez pris plein la poire à un moment.
Ouais. Dans ces cas-là, je me dis toujours, on verra au cinquième album comment on regarde ce qui s'est passé sur le deuxième. Inch'Allah, si j'en ai un cinquième. Mais oui, je m'en suis... Oui, c'était assez... J'étais proche du knock-out à un moment. Et ça a été assez compliqué, ouais. Juste avant de monter sur scène et de commencer ma tournée, je m'en étais déjà pris pas mal, donc c'était un peu particulier, ouais. People, c'était vraiment une idée...
People have been sad.
People have been sad, ouais, c'était l'idée de confesser vraiment sa tristesse, quoi. Donc voilà, c'est le syndrome aussi du... J'arrive pas à parler dans ma vie, mais j'arrive bien à écrire des chansons, donc... Même People have been sad, c'est un peu... Dire à quelqu'un je suis triste, enfin je veux dire, il n'y a même plus de plaisir à utiliser des métaphores parce qu'en fait on n'a plus le temps ou même plus l'énergie. Ou... Il y a la nécessité d'être très clair aussi. Par contre, c'est très engageant pour performer. Ça expose extrêmement. Il n'y a nulle part où se cacher, quoi. Ouais. Il y a du plaisir aussi à être très direct dans les paroles que j'avais pas avant, mais que j'ai maintenant. Paradoxalement, je peux avoir 10 000 strass sur la figure.
Et 10 000 costumes différents.
Ouais. En fait, on n'est pas vraiment caché dans la mesure où l'écriture est très confessionnelle, quand même.
Sans second degré.
Oui, c'est vrai. C'est vrai, ça. Pas du tout de cynisme. Mais moi, c'est ce que j'adore aussi dans l'écriture d'une chanson. Il peut y avoir des chansons très cyniques et très second degré, mais moi, c'est vrai que j'adore les écritures très écorchées, sans cynisme. Je trouve qu'il y a du courage à plus avoir de cynisme. Surtout aujourd'hui, des fois, dans des époques un peu comme ça, où le cynisme est vu comme une espèce de démonstration d'intelligence, bah, moi, des fois, je trouve que parfois, être très premier degré, c'est aussi vraiment courageux, quoi. Il y a quand même une culture du sarcasme aussi, qui est très celle des réseaux sociaux, de tout tourner en dérision et puis de se foutre un peu facilement de la gueule des gens qui sont dans la naïveté du premier degré, quoi. Que je comprends parce que c'est cool le sarcasme. Mais c'est dur en fait de monter sur scène et de chanter pour que tu m'aimes encore, hein, en vrai. C'est pas facile. Ça t'expose, ça t'implique. Tu peux pas vraiment le faire à moitié en fait. Sinon, ça tombe à plat. Donc il y a quand même. Moi j'aime bien. C'est flamboyant, quoi.
Vous vous dites performer des chansons, pas interpréter ou chanter.
Ouais.
C'est le côté performeuse plus que chanteuse ou interprète, en fait.
Bah, ça regroupe les deux pour moi, quand même, dans la performance. Chanter, je pense que je sais pas chanter, donc voilà.
Ah ouais.
Ouais. Bah, je me suis jamais considérée comme une chanteuse, quoi. Quelque chose, d'ailleurs, je me souviens, H pourrait en témoigner, hein.
H Workman, qui a co-réalisé Chaleur humaine, comme d'ailleurs La Vita Nuova.
Ouais. Il y a eu des crises de larmes dans l'enregistrement du premier album parce que j'avais l'impression que je n'avais pas du tout bien chanté. Mais je pense que c'est parce que j'aime pas follement ma voix que je la travaille de façon peut-être intéressante, parce que j'ai toujours trouvé ma voix un peu en suspens, je sais pas, voilà, un peu abstraite, quoi. On peut penser à une voix de chérubin, un peu, je sais pas trop ce que c'est, quoi. J'ai toujours un peu envié les gens qui avaient une voix, genre, soit très marquée, avec une signature vocale de malade, une espèce de glaire qui se balade, ou... Enfin, je sais pas, je trouvais que la mienne était un
peu... Faut fumer.
Ouais, mais je peux pas, parce que j'aime trop danser et chanter. J'ai perdu ma voix deux fois sur la première tournée, parce que très vite, j'ai dû apprendre à la muscler, à la travailler. Puis j'ai commencé à prendre des cours de chant, puis ça a changé ma vie un peu, parce qu'en fait... Les profs de chant m'ont dit, bah, en fait, ça se travaille, surtout si tu veux chanter et danser. Puis en fait, t'as ça comme octave, mais tu peux avoir ça. Puis en fait, ta voix, elle est comme ça, et puis elle est comme ça. Et puis en fait, tu penses que tu peux pas pousser ta voix, mais en fait, si. Et puis en fait, bah, tu découvres que ton instrument est plus vaste que ce que tu pensais.
Petit rappel des faits. Vous écoutez Pop & Co sur France Inter. Et où sommes-nous? Au studio Ferber, avec Christine and the Queens et Bastien Dorémus, son ingénieur du son. Et pourquoi faire? Entrer dans les coulisses de People I've Been Sad, l'une de ses toutes dernières chansons. Ordinateur sur les genoux, Christine and the Queens cherche les sons qui composent le morceau.
Alors, attends. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis très bordélique, donc il faut absolument que je retrouve ce truc. On va y arriver, hein. On peut parler d'autre chose maintenant.
Non, non, mais pas de soucis.
Ouais. Non, c'est pas du tout ça. Donc on entend vraiment une réverbe là. Forsaking things for way too long. Bah c'est ça, cette sensation que ça donne, c'est une voix qui traîne plus dans l'espace, il y a une queue de la comète, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas juste, c'est pas une voix très sèche comme celle qu'on a là maintenant. D'ailleurs, c'est assez impitoyable de chanter en voix sèche, comme on dit, parce que la réverbe aussi permet... que la voix traîne un peu plus, donc on peut s'autoriser plus de détente et tout ça. L'expérience de chanter très sec, c'est impardonnable aussi, parce qu'en fait, tu peux te réfugier dans rien. T'es complètement exposé, donc tu... C'est une chanson. Si ça sonne pas sec, des fois, une réverb, ça peut enjoliver une performance aussi, en fait. En vrai, soyons francs.
Ou en effet, faire un peu cache-misère, aussi.
Donc là, on a caché la misère. Non, je rigole.
Non, c'est pas...
Dans la composition musicale... On peut rentrer, on peut soulever le capot un peu de cette chanson-là.
Soulevons le capot.
Alors, détaillons un passage que vous choisissez.
En fait, cette chanson, elle a été vachement intéressante à travailler parce que c'est comme une pièce de théâtre, il y a plusieurs actes. C'était vraiment réfléchir à comment faire arriver les choses correctement et avec de l'intention. Donc, c'est-à-dire que j'ai tout de suite, quand le français arrive dans la chanson, il arrive de façon un peu imprévue parce que tout est en anglais au début. Donc, je fais vraiment arriver le français comme une espèce d'entrée solennelle de la langue maternelle, quoi. Donc, je me suis dit, oh, faut que les violons arrivent là parce qu'en fait, c'est le retour du français. Le français arrive sur son cheval. C'est plus tard. Ah mais attends, ça c'est la version coûte. Ah non, voilà. Donc on sort d'un refrain. C'est là qu'on fait arriver les cordes. Alors d'ailleurs j'ai une anecdote intéressante sur les cordes parce qu'en fait c'est quand même trop drôle. C'est pas du tout un orchestre ça, c'est une seule et même personne qui nous a fait littéralement un orchestre humain. Le mec est génial parce que il se place à différents endroits de la pièce, plus ou moins loin du micro, et il joue avec plus ou moins de densité. Et en fait du coup il est, à force d'assembler, ça finit par faire comme un orchestre. En fait littéralement il jouait ce que je chantais au micro. Voilà quoi, un seul homme. Enfin, l'anglais, c'est presque le constat, c'est-à-dire people have been sad, have been gone, je suis partie, j'ai été triste. Le refrain est en anglais, mais il y a un truc un peu pudique. Et le français, quand il arrive, est vraiment très direct, c'est-à-dire le fameux moment où je dis adolescence contrariée par des milliers de remords, par une solitude folle, ou alors les gens reviennent et parlent mal des sentiments qui pourtant comptent. Donc le français est la langue confessionnelle, quoi. Et ça, j'aime bien aussi ce que ça permet de chanter en deux langues dans une chanson pour ça, parce que c'est presque comme changer de registre et changer d'adresse, quoi. Et ça te permet une espèce de... surtout que c'est pas la même écoute, puisque tu changes de langage. Donc, par exemple, les Français t'écoutent deux fois plus, et donc c'est deux fois plus important ce que potentiellement tu vas dire là, à ce moment-là. Donc j'aime bien jouer de ça aussi. Et des fois, j'aime bien jouer du fait que ce soit encore moins accessible. Il y a la chanson La Vita Nuova qui est en italien. Mais c'est ça qui est bien. Pour le coup, il y a l'italien, c'est presque la langue du plaisir dans cette chanson. C'est la langue de, je sais pas moi, de la parade amoureuse et tout ça. Et j'aime bien qu'il y ait... C'est la beauté de la tour de Babel, quoi. Mais c'est vrai que le français est la langue de... Bah, pour moi, c'est la langue maternelle, donc c'est la langue de l'extrêmement personnel aussi. On peut prendre au début.
Adolescence contrariée par un millier de chats morts. Marcher pieds nus sur du fer.
Mais ça commence comme ça, c'est-à-dire quasiment rien.
Marcher pieds nus sur du fer et maintenant tout est plus fort.
Après, il y a la basse qui revient. Après, il y a des chœurs qui vont arriver. Et c'est vraiment. Là, ça reprend un peu. Et alors, en fait, je sais pas si ça s'entend, mais c'est très difficile. Parce qu'en fait, il y a presque pas de moment pour reprendre son souffle, et il faut en même temps être très léger. Et tu sors d'un refrain qui est assez performatif, et après tu fais adolescence contrariée, et ça s'arrête vraiment pas. Et tu dois continuer comme ça pendant encore 8 mesures. Donc c'est vraiment genre, ça te. En tant que. Chanteur, ça te met dans un état où tu es obligé d'être vraiment genre dans un truc. C'est comme si tu parlais à l'oreille de quelqu'un un truc vraiment. Tu vas tout dire comme ça, puis après tu vas plus pouvoir avoir de souffle. Enfin, j'avais particulièrement galéré à faire ce moment-là de la chanson en studio. Voilà.
C'est comme en fait si vous incarniez des personnages d'un roman.
Oui.
Votre parcours, vous le voyez comme ça, comme un roman.
J'aimerais tellement. Je pense que oui, j'aimerais bien que ce soit ça. Ça me parle en tout cas. Bah déjà parce que avant de faire de la musique, j'ai eu plusieurs velléités professionnelles, dont romancière. Et moi j'adorais les personnages de meufs badass quand j'étais jeune.
C'est-à-dire ?
Bah les guerrières, les amazones, les émancipées, les...
Lesquelles alors par exemple ?
Les Mylène Farmer, les Desireless, les Madonna.
Desireless ?
Ouais, Desireless, ça a été quand même assez génial, je trouve. Même la façon dont elle avait d'exister dans sa vidéo, avec sa chanson et sa voix hyper... dans le genre aussi, il y a une Annie Lennox, c'est cette espèce de dandy avec des voix hyper vastes, et puis qui existait aussi d'une façon qui n'était pas forcément dans une séduction. Leur charisme ne dépendait pas de l'idée qu'elles allaient plaire à quelqu'un en particulier. Elles avaient l'air tellement indépendantes aussi, c'est comme une Laurie Anderson. C'était des femmes qui existent dans leur intelligence aussi, dans leur... Enfin, que moi je trouve extrêmement belle, mais qui se sont construites tellement différemment aussi.
Avec des codes de séduction totalement différents.
Ouais. Mais très libérateurs pour moi. Enfin, quand j'étais jeune, en tout cas, moi, une Laurie Anderson, ça m'a tellement rassurée déjà, et puis excitée aussi, et puis enthousiasmée, quoi. C'était d'une exigence folle, et en même temps, c'était très généreux. Et puis, elles n'avaient pas l'air de suffoquer sous le poids de la contrainte qui était celle de plaire, quoi. Elles préféraient raconter des histoires et stimuler les autres aussi, enfin, il y avait quelque chose de très... comme une vraie invitation, enfin voilà.
La Vita Nuova, c'est le titre du mini-album que Christine and the Queens a publié au printemps. Il a paru sur le label Because. Une des choses que je crains de vous répéter toutes les semaines, c'est que Pop & Co est un travail d'équipe. Alors merci à Coy Nguyen qui a réalisé cette émission avec Florent Layani à la console aujourd'hui. Merci à Ilinga Negulesco qui cherche et trouve son et documentation. Merci à Jean-Baptiste Audibert qui nous apporte son érudition musicale. Merci à Romain Couturier de la discothèque de Radio France et à tous les documentalistes de cette maison. Le sous-titre de Pop & Co la semaine prochaine, c'est Les Slow, Grandeur et Décadence. Et on se rend en studio avec la chanteuse Pomme. Pour les prochains épisodes de Pop & Co, je vous parlerai de Boire, premier album de Miossec paru il y a 25 ans. Et puis après, il sera question du rappeur américain Kendrick Lamar. Et puis après, il y aura Dalida. Bon bref, à samedi prochain, 11h.